Jusqu'à 13h, les rendez-vous de l'été. Tout le monde est bien installé. Vous recevez aujourd'hui dans nos studios Emmanuel Louis Emery.
Oui, c'est toujours avec un grand plaisir que nous accueillons Louis Emery, un fidèle de Nove FM. J'ai même découvert depuis les premières heures de la radio. Et réciproquement, effectivement, on a parlé ensemble théâtre, Téléthon, il y a quelques années. Puis l'an passé, Nove a suivi un challenge bluffant, mission accomplie avec Adrien Ruffier. 680 km en roller entre Roscoff et Paris, arrivé au virage de l'espoir, bluffant car Louis et Adrien sont atteints de mucoviscidose. Bonjour Louis.
Bonjour Emmanuel.
Et donc en discutant, on s'apercevait que je n'étais pas la première à vous avoir interviewé pour 9 FM, mais un autre journaliste. Au tout début de la radio, vous étiez tout jeune, 12 ans.
Oui, c'est ça, à peine. Et j'étais à l'époque parrain du Téléthon de l'île de Noirmoutier. Ça remonte un petit peu.
Ça remonte un peu. Alors c'est dommage, j'aimerais bien retrouver ce son. Je vais essayer de le retrouver. Louis, vous n'êtes pas venu les mains vides aujourd'hui, mais avec un livre. Il s'appelle Cher Parasite, que j'ai dévoré. Et dans lequel, en fait, pour la première fois, vous vous livrez complètement et nous racontez la maladie, ce que votre corps a pu vivre ces dernières années. Du lien aussi, pas toujours évident, et je pèse mes mots, avec vos soignants. Et cette étape clé en 2017-2018, on va en parler, où la maladie a été assez puissante.
Avec
d'abord,
plaisir.
Aujourd'hui, 31 ans, Louis Emery, comment vous allez aujourd'hui?
Très bien. Très très bien.
Grand sourire.
Oui, très très bien, à fond. On va en reparler, mais effectivement, on a un nouveau traitement aujourd'hui qui permet de radicalement améliorer la qualité de vie.
Dont vous bénéficiez depuis quelques années et qui a changé beaucoup de choses pour vous.
Tout à fait.
Alors pour vous présenter, parce que tout le monde ne vous connaît pas, les auditeurs ne sont pas tous hyper fidèles forcément, c'est pas si simple, parce qu'en fait vous faites plein de choses, vous avez plein de passions, d'activités. Mais comment est-ce qu'on vous présente dans un parcours pro et associatif déjà?
Un hyperactif chronique.
Voilà,
ça marche
complètement. Théâtre, un peu de politique presque.
Oui, c'est vrai. Alors,
institutionnel.
Voilà, disons que j'ai une première partie de vie effectivement où j'ai été beaucoup en politique. J'étais même élu municipal à Noirmoutier, attaché parlementaire de monsieur Stéphane Buchot également. Et puis je suis ensuite partie au service de l'État au niveau de la sécurité civile. Et puis il y a quelques temps de cela, notamment avec le nouveau traitement, on revoit un petit peu notre vie et on revoit un petit peu nos rêves aussi qui sont là, qui nous habitent encore, et on se dit faut le tenter avant de regretter. Donc aujourd'hui je suis comédien et écrivain.
D'accord, donc c'est essentiellement ça, comédien, le théâtre ça a toujours été une passion.
Tout à fait.
Et écrivain, c'est votre premier livre, hein?
Exactement, premier roman en contrat d'édition.
Alors vous dites roman, et pourtant moi j'ai l'impression que chaque ligne est complètement réelle, c'est un roman réaliste et autobiographique.
Tout à, alors si vous voulez vous la péter un petit peu, on dit roman du réel.
Un roman du réel,
voilà, exactement.
J'étais pas loin. Alors c'est important de bien cerner qui est Louis Emery, avec évidemment cette info aussi très importante. Vous êtes donc atteint de mucoviscidose, même si vous avez toujours fait en sorte que cela ne vous définisse pas, ça vous le dites, vous l'écrivez, à commencer par et pour vous-même.
Tout à fait. Oui, c'est ce que je dis souvent, c'est que elle fait partie effectivement intégrante de ma vie, c'est-à-dire que pendant très longtemps et encore aujourd'hui, j'acte mon quotidien par rapport à ce filtre de la pathologie, mais pour autant, elle ne me définit pas.
Vous allez raconter en fait dans ce livre un épisode, vous ne racontez pas tout. Alors par exemple, vous ne racontez pas effectivement par exemple la découverte par vos parents de la maladie. Vous en parlez pour d'autres mais pas pour vous.
Tout à fait. Parce que c'est sûr que quand on écrit, on partage une certaine intimité et je pense que la pudeur nous rattrape parfois entre les lignes. Donc c'est vrai qu'on puis on peut pas parler de tout non plus, il faut en garder pour les suivants. Mais disons simplement que j'ai eu la chance en tout cas dans mon cas personnel, d'être diagnostiqué très jeune, très tôt, à quelques heures. Hein. C'est ce qui m'a permis aussi de pouvoir très rapidement être pris en charge.
Alors, la pudeur, il y en a, mais vous racontez aussi beaucoup de choses, sans filtre, sans tabou. Je pense que c'est important aussi dans votre message.
Bien sûr. En fait, c'était important pour moi déjà de dire qu'il n'y a aucun tabou, particulièrement sur le sujet du handicap invisible, parce que aujourd'hui, c'est un vrai sujet. On oublie trop souvent, mais 8 millions de personnes en situation d'handicap invisible en France, hein, c'est 80% des personnes en situation de handicap. Donc c'était important aussi de désamorcer un petit peu, aussi par l'humour, certains sujets qui peuvent être délicats.
Il y en a beaucoup, on va comprendre comment un jour, effectivement, ou certains jours, la maladie prend le pas. Vous nous livrez ce témoignage très fort à plus d'un titre sur ce qu'est d'abord la mucoviscidose. Avec ce parti pris, il y a Louis d'un côté, qui vit des moments un peu et très difficiles, et puis ces personnages qui tirent la couverture à eux, qui essayent de tirer la couverture à eux. Alors il y a monsieur mucoviscidose, alors monsieur, moi j'étais surprise.
Oui.
Moi j'aurais dit madame.
C'est vrai?
Oui.
Mais ça dépend, je pense.
On dit la mucoviscidose.
Oui, mais comme étant un homme, je pense que je sais pas, j'avais envie que ce soit un homme Mais
trop de respect pour la gente féminine,
ouais,
peut-être.
Peut-être aussi, mais bien qu'il y ait aussi des femmes qui entourent Monsieur Mucoviscidose, oui. Il y a même une romance.
Oui.
Mais oui, c'est vrai. Et même pour l'anecdote, d'ailleurs, au tout début, je l'avais appelé Docteur Muco. Qui était évidemment plein d'ironie, mais je me suis dit pour la lecture c'était mieux Monsieur Mucoviscidose.
Donc il y a Muco, il y a Mucus, il y a la bactérie pure, il y a d'autres personnages qui vont arriver au fil du temps. Vos récits en fait alternent entre ce que vous vivez à un moment de votre vie et puis ces personnages qui se livrent à nous, qui nous expliquent que leur rôle, c'est en leur donnant la parole qu'on découvre ce qu'est la maladie. Et là il y a plein d'explications. Là si on se pose des questions, on a plein de réponses.
Oui, c'était une façon pour moi de vulgariser aussi, de donner des clés au lecteur de comprendre la maladie, comment elle évolue. Et puis c'était aussi ma façon à moi de détendre l'atmosphère. Je ne suis pas très fan du pathos. Mon but n'était pas du tout la plainte. Au contraire, je voulais créer de l'humour un petit peu. Et ces personnages-là qui vivent indépendamment de moi à l'intérieur, ça me permettait d'alléger l'écrit.
Donc on apprend plein de choses sur la maladie, sur la manière dont elle peut vous affecter, sur la manière dont vous luttez. Hein, on voit aussi vos séances de kiné respiratoire. C'est vrai qu'on entend parler, je me souviens quand Grégory Le Marchand était à la Starac, qui nous parlait de ces séances, mais on ne sait pas comment ça se passe. Alors vous allez vraiment dans le détail. C'est pas toujours facile.
Non, ça n'a pas toujours
Surtout
été
Surtout quand
simple.
Vous êtes vraiment malade, encombré. Hein.
Bien sûr. Un patient mucoviscidose en bonne santé, c'est environ 4 heures de traitement par jour. Alors aujourd'hui, c'est en train évidemment de se recalculer avec le nouveau traitement. Mais lorsque, évidemment, un patient n'est pas bien, est en période d'infection ou même à l'hôpital, c'est du 24-24. Le combat, c'est du 24-24.
Et donc, vous nous racontez comment ça se passe pour vous, à l'intérieur de vous. Et puis surtout, cette maladie qui aujourd'hui ne se guérit pas, toujours pas. Il y a effectivement un traitement qui va arriver en fin de livre. Hein. On ne dit pas tout, mais il faut le dire aussi. Mais elle ne se guérit pas encore. Et ça, vous en parlez évidemment de cela.
Tout à fait. Aujourd'hui, on a à peu près 7600, un peu plus de 7600 patients en mucoviscidose. La médiane d'âge au décès, c'est 38 ans. Alors, ça a énormément augmenté, comme l'espérance de vie. Mais ça reste une maladie génétique incurable. Une maladie génétique qui va toucher le système pulmonaire et le système digestif. Au niveau pulmonaire surtout, ce qui peut provoquer une dégradation parfois subite de la capacité pulmonaire du patient. Et donc, de facto, de soit provoquer la greffe, soit, le pire des cas, la mort. Mais aujourd'hui... Et c'est ça aussi qui est plein d'espoir, c'est qu'on a une recherche scientifique qui est en train aussi d'énormément avancer. Et c'est ce qui permet aujourd'hui notamment d'avoir un nouveau traitement qui s'appelle le CAF-TRIO, qui est un modulateur. Donc il va venir moduler la protéine défectueuse à l'origine de la maladie. Et comme dans tout dans la vie, quand on traite l'origine des problèmes, c'est tout ce qu'il y a derrière qui va mieux. Et aujourd'hui, un peu plus de 75% des patients en mucoviscidose peuvent en bénéficier.
On raconte comment vous allez vous en bénéficier vers la fin du livre. Évidemment, ça a changé beaucoup de choses. Mais on découvre comment les choses évoluent. Vous racontez aussi comment au départ, il y a quelques dizaines d'années, décennies, voire 100 ans peut-être, les médecins pensaient que c'était une maladie complètement digestive.
Oui, tout à fait.
On ne pensait pas aux poumons.
Et non. Et même, il y a certains écrits, notamment au niveau... du 17e, 16e, 17e siècle, on retrouve des proverbes qui disent notamment « Malheur à l'enfant au front salé, il ne dépassera pas ses 8 printemps ». Et en fait, tout simplement parce que notre sueur étant salée, à l'époque, sachant qu'il n'y avait rien du tout, les enfants mouraient chétifs à 7, 8 ans, parfois moins. Et puis effectivement, dans les années 50-60, on s'est dit « Bon, c'est un problème au niveau de l'estomac ». Donc on nous a nourris, on a mis des pancréatines, des choses pour nous aider à digérer. Et puis du coup, on était un peu mieux. Et là, poum, surprise, ce sont les poumons qui se sont invités, puisque les patients... ayant grandi, atteint 14-15 ans, et bien là, poum, les infections pulmonaires à répétition sont arrivées. Et c'est là qu'on a compris que le plus gros problème, c'est pas le digestif, c'est vraiment le pulmonaire.
Et puis après, la médecine avançant, et on est allé encore beaucoup plus loin dans la connaissance de la maladie. Aujourd'hui, effectivement, ce traitement, il est très important, mais l'idée qu'elle ne se guérisse pas, vous êtes toujours en tête qu'il faut aller évidemment encore plus loin.
Bien sûr, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est tout le sujet de l'association dans laquelle je travaille, qui est Vaincre la mucoviscidose, c'est de dire le combat n'est pas fini. Parce que forcément, lorsque le nouveau traitement est arrivé en 2021, On a fait une communication extrêmement positive parce qu'on a même vu des patients qui étaient en attente de greffe sortir de l'attente de greffe. On a vu des patients qui étaient tombés, bien sûr, qui étaient tombés parfois 20-30%, parfois moins, avoir une capacité pulmonaire retrouvée. C'est extraordinaire d'avoir ça. Donc forcément, l'association, on a eu envie de mettre ça en avant et en même temps, on s'est dit, oula, c'est pas fini. Ouais, c'est pas fini. Et il y a eu parfois une communication, c'est normal aussi, très positive de la part des médias. Et tout notre travail aujourd'hui, c'est de dire, non, attendez, elle reste incurable. Tous les patients n'en bénéficient pas encore. Et puis, il y a aussi une chose à prendre en compte, c'est que les patients, de mon âge et un peu plus, même s'ils ont eu le traitement aujourd'hui, on aura des séquelles à vie. Nos poumons... Oui. Notre corps aura traversé le combat.
Ils ne sont pas régénérés.
Tout à fait.
Encore.
Tout à fait. Donc le combat n'est pas fini et on continue, évidemment.
Donc voilà, c'est ce qu'on apprend avec ces vrais dialogues aussi entre vos personnages, hein, Mucus, Muco, etc. Vous imaginez, c'est complètement théâtral, ça c'est la petite parenthèse. Et puis vous nous racontez cet épisode qui est vraiment le cœur du livre, hein, de plusieurs mois. Vous aviez 24 ans, si je ne me trompe pas.
Oui.
Et la maladie prend un tournant que vous n'aviez encore jamais vécu, si je ne me trompe pas non plus.
Exactement, non, c'est très bien. Ouais. Je crois que vous avez bien lu le livre.
Mais voilà, oui. Ce sont des mois très compliqués que vous avez vécu.
Oui, bien sûr, en fait, c'est-à-dire que j'ai vécu un petit peu un cas d'école, c'est-à-dire une chute extrêmement brutale sur du très court terme de ma capacité pulmonaire. Donc c'est-à-dire qu'on se retrouve du jour au lendemain à être essoufflé en se levant du lit ou en se brossant les cheveux. C'est très surprenant, surtout à 24 ans, on a envie de faire la fête, d'aller à la cabane à coco quand elle existait encore. Et donc du coup, ça fait un peu bizarre. Et en même temps, la force du combat m'a permis de récupérer et de recentrer autour de moi tous les moyens thérapeutiques pour vaincre la maladie, ou en tout cas vaincre cette période un peu compliquée. Et c'est d'ailleurs tout le sujet de ce livre, c'est d'utiliser évidemment mon vécu, mais comme un prétexte pour parler plus largement de la place du patient en France, dans notre système de soins, et plus particulièrement la place du patient dans son parcours de soins.
C'est central dans votre livre.
Bien sûr.
Le partenariat médecin-patient.
Tout à fait. Tout à fait. C'est la question de la collaboration thérapeutique. Et ça, c'est un sujet qui, au XXe siècle, n'était pas vraiment d'actualité, parce qu'on était sur un fonctionnement assez patriarcal du médecin ayant un savoir. Je mets des parenthèses, évidemment, parce que certains médecins ont eu ce sens humain. Parce qu'il n'y avait pas la formation du médecin au niveau thérapeutique de ce sens humain. Donc certains l'avaient, mais la plupart ne l'avaient pas. Et donc, l'information allait toujours en amont, en aval, et jamais l'inverse. C'était toujours le médecin ayant le savoir et le patient qui applique. Or, ce que je dis et ce que je répète toujours, c'est évidemment le soignant, le médecin, a une science, une formation que le patient n'a pas. Mais le patient, surtout le patient chronique, connaît son corps comme personne. Donc c'est l'alliance de cette connaissance physiologique et de la connaissance scientifique qui va faire le miracle.
Et on a une démonstration formidable, entre guillemets, hein, dans votre livre, parce que vous parlez du XXe siècle. Moi, j'ai envie de dire, au XXIe, on n'a pas énormément avancé. On vous retrouve pendant des mois d'hospitalisation avec des échanges qui sont vraiment lunaires, hein, quand on vous lit, avec plusieurs médecins, dans un premier qui ne vous dit pas bonjour en entrant dans la chambre. Vous lui dites plusieurs fois bonjour avant qu'il n'ait réussi à le sortir aussi. Votre pneumologue, alors, qui ne vous écoute pas, mais alors pas du tout, sans compter les internes. Alors, vous êtes bien conscient, hein, de la difficulté de la tâche, des services débordés, ça c'est évident.
Bien sûr.
Mais on bondit à vous lire, Louis. On en reparle dans 3 minutes. Et on va parler effectivement de cette importance d'une collaboration thérapeutique avec le patient et le soignant.
Dans 3 minutes, et c'est juste après la musique, le titre de Jérémy Frérot sur Neuve.
C'est dur de se séparer au troisième coup de sifflet. On sent la déception de la défaite. C'est si facile de se prendre la tête. C'est sûr que la team doit s'organiser, devenir une famille sans y habiter. Papa, maman vont devenir amis. Ça veut pas dire que tout est fini. On va garder le maillot de parents. Ça fait 6 ans qu'ils nous font rêver. On a quand même eu du talent. Regarde un peu ce qu'on a créé. Équipe. ses choix, chacun sa vie, chacun sa voix, chacun ses raisons. Chacun chez soi, chacun ses nuits, chacun ses jours, chacun sa maison. Chacun de son côté, chacun sa liberté, chacun son tempo. Chacun sa solitude, chacun sa lassitude, chacun son renouveau. Adieu, on se dit adieu. Deux amours vaincus du passé. Tenir le coup pour eux, ces deux petits bouts, nous deux, une équipe après tout pour eux, encore un peu de nous, nous deux, faut bien tenir le coup pour eux, ces deux petits bouts, nous deux, une équipe après tout. Adieu, on se dit adieu, deux amours vaincus, du passé n'en parlons plus, allez adieu. Deux enfants, adieu, on se dit adieu. Deux amours vaincus du passé, n'en parlons plus. Allez, adieu, on fait de nous deux des parents, on est quitte. Un enfant, deux enfants, une équipe.
Jérémy Frérot, un instant sur Neuve. Jusqu'à 13h, la suite évidemment des rendez-vous de l'été. Aujourd'hui, Emmanuel, vous recevez dans nos studios Louis Emery.
Exactement, avec ce livre, à lire absolument, il s'appelle Cher Parasite, qui est donc édité à Il est midi, avec une préface de Pierre Foucault. Cher Parasite, Louis Emery, c'est évidemment la monsieur mucoviscidose. Donc, il y a encore pas que pas mal de personnages sont entrés dans votre vie. Et monsieur mucoviscidose a pris quelques libertés pour anéantir la vôtre, le corps lâche en 2017. Vous donnez plein d'exemples, hein. Donc vous avez passé des mois à l'hôpital, vous rentrez chez vous sur l'île de Noirmoutier, vous repartez au bout de 3 jours, enfin, c'est un cauchemar, hein. Vous nous racontez par exemple, hein, tout petit exemple, comment vous sortez pour marcher tous les jours, c'est vraiment votre choix, vous vous dites il faut que je bouge, et vous voyez une vieille dame en déambulateur qui vraiment peine à marcher, qui vous dépasse. Vous avez 24 ans.
Ça fait bizarre.
Et ça vous dit c'est quand même très bizarre.
Les JO c'est pas demain. Mais oui, ah, non, clairement ça fait une drôle d'impression, mais c'est un... Cette histoire-là, elle est, encore une fois, elle est importante parce que lorsqu'on est hospitalisé, on nous prône le repos. Bon, déjà se reposer dans un hôpital.
Et on voit aller tous les matins
entre
à l'aube,
les bips, les machins.
Il y a des réveils brutaux quand même.
Voilà. Après, certains hôpitaux, notamment, je vais citer en exemple l'hôpital de Rennes, a mis en place une politique de sommeil pour ses patients en réduisant le bruit, en réduisant les lumières. Mais c'est une politique qui reste encore rarissime. Alors même que le premier soin d'un patient, c'est le repos. Mais justement sur cet exemple-là, je me souviens très bien, on me disait ne bouge pas. Mais bien sûr que si. Un patient qui va se déplacer, c'est un patient qui ne sert pas à rien. C'est extrêmement important, surtout sur des maladies pulmonaires, de ne pas fixer le patient sur son lit, à attendre à l'horizontale. Au contraire, marcher, ne serait-ce qu'un pas, c'est déjà un pas. Et c'est déjà un pas pour aller mieux au niveau du moral et aussi mobiliser les poumons.
On va le voir quand vous allez arriver dans ce centre en Bretagne où beaucoup de choses se sont améliorées. Là, c'est un super cadre. Alors, on passe de l'hôpital avec une chambre avec des murs quand même pas tout frais, hein, des repas immangeables, le lien compliqué avec vos soignants. Voilà, je voulais quand même revenir sur ce sujet qui s'évertue à vous donner des traitements qui ne fonctionnent pas en vous disant ça fonctionne, mais vous avez toutes les... Non, ça fonctionne pas. Je respire pas mieux, voire pas du tout. Qui n'écoute pas votre ressenti, ni même une piste à un moment donné très sérieuse. Il faut lire le livre pour comprendre tout ça. Vous lancez vraiment un cri d'alarme sur justement ce silence, ce fait que vous pouvez parler mais on ne vous écoute pas, sur plusieurs temps d'hospitalisation.
Oui, tout à fait. C'est un peu l'objet de mon livre. Je pense qu'il faut être conscient aujourd'hui que le système de soins français public a été en partie sacrifié. Qu'aujourd'hui on a des soignants, je pense notamment aux premiers sur le front, les aides-soignants, les infirmières, les infirmiers, sont très loin de leur rêve d'enfant. Et ça c'est un fait. Quand on a 2 soignants pour 15 chambres, et je suis gentil, on ne peut pas exiger plus que la vertu de robot lorsqu'on doit enchaîner en quelques heures 15 chambres avec 15 pathologies différentes. Mais ça, c'est un fait. Par contre, effectivement, il y a une chose, moi, qui est plus surprenante, c'est la question, effectivement, de l'écoute du patient. Et c'est vrai qu'il y a eu un changement radical entre le premier CHU où j'étais et le second. Le second avait une politique d'écoute du patient et de rendre acteur le patient dans son parcours de soins et dans sa santé. Un patient qui va adhérer à ses soins, c'est un patient qui va se soigner beaucoup plus rapidement, qui va beaucoup plus être proactif. Attention, il ne faut pas négliger le droit à ne pas savoir. Mais il faut pour ça jauger le patient. Si on a un patient qui ouvertement dit « je ne veux rien savoir, je fais ce qu'on me dit », très bien, et c'est un droit, et il faut le respecter. Par contre, quand on a un patient qui veut être actif, qui veut aller de l'avant, qui veut participer dans les décisions qui le concernent lui avant tout, il faut le prendre en compte. Et ça, en France, il y a eu un certain retard. Je ne donne qu'un seul exemple. Il a fallu attendre 2002 et les lois Kouchner pour que le patient ait accès à son dossier médical.
Et
en France.
C'est pas toujours le cas, hein, encore aujourd'hui, c'est pas si simple. Hein.
Non, parfois il faut se battre pour avoir ses propres données médicales.
Et vous dites, quand on est un patient qui est malade chronique, donc qui connaît bien sa maladie, avec des moments de rechute, vous connaissez bien, effectivement, ça devrait être évident, ce lien, cet échange. Hein.
Tout à fait, ça devrait être évident. Sauf qu'aujourd'hui, alors heureusement, il y a des choses qui s'améliorent, notamment avec le patient partenaire qui sont des patients, des usagers qui vont intervenir en faculté durant la formation du médecin. Mais globalement, c'est pas quelque chose qui est mis en avant. Or, pour traiter un patient, on traite un humain, on traite de l'humain. Et je vais être un peu peut-être provocant en disant ça. Il y a des médecins qui vont être très forts pour avoir cette écoute, avoir ce sens humain. Et il y en a d'autres qui vont être meilleurs pour gérer des souris dans un laboratoire. Je veux dire par là qu'il y a certains médecins qui n'ont pas ce sens-là et qui ne veulent pas l'acquérir.
Et vous n'êtes pas une souris dans un laboratoire,
non.
Cher patient. Voilà, c'est un récit, j'aurais mille choses à dire. C'est un récit qui est plein de vie, avec une écriture recherchée. On voit que vous aimez les mots, les dialogues, hein, l'humour aussi. Vous avez quelques personnages aussi importants qu'on découvre. Adrien, par exemple, que vous rencontrez en Bretagne. Mais c'est bien l'Adrien de votre défi en roller. Autre personnage important, très émouvant, c'est votre maman. Il y a beaucoup de pudeur, hein, dans sa présence et dans la manière dont vous en parlez. Vos parents qui vous ont toujours dit... tiens bon, il y aura un traitement un jour.
Complètement.
Toute votre vie.
Toute ma vie m'ont éduqué avec ce sens de préserve-toi pour le traitement miracle. Et le traitement est arrivé, ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai des poumons préservés. Mais encore une fois, bien sûr, la pudeur, c'est toujours un peu un exercice pour l'écrivain. D'autant plus dans un roman du réel où on parle de soi. C'est toujours très délicat, mais c'est important pour moi de les mettre en avant, parce que c'est aussi grâce à eux que je vais bien aujourd'hui.
En tout cas, lisez ce livre, hein, tous. Louis, vous serez demain matin, si je ne me trompe pas, à l'Encre Bleue, à la librairie en plein cœur de Noirmoutier le matin.
Tout à fait, de 10h à 13h, et j'aurai une autre dédicace à l'Épine le 24 août, de 10 à 13h.
Venez rencontrer Louis, vous avez vu, il est quand même passionnant et communicant. On lit votre livre, que vous soyez d'ailleurs ou non familier avec la mucoviscidose ou pas, voilà, c'est une leçon de vie, c'est une leçon de courage, de ténacité, puis vous donnez vraiment plein d'espoir. On a envie de bouger en plus, hein, quand on vous lit, le sport c'est très important. Mais je laisse les gens le lire, vous verrez ça.
Bien sûr, Parasite.
Pardon, mais j'ai juste ajouté que le prix, je suis en finaliste sur le prix national LEM, parole de patient. Et c'est vrai que c'est aussi un prix qui est important pour mettre en avant cette question relation soignant-soigné. Et merci beaucoup pour l'accueil, Nov FM. Emmanuel, merci.
Avec un grand plaisir. Louis, on croise les doigts pour le prix, vous nous direz évidemment. Vous nous tenez au courant. Rendez-vous donc demain matin avec lui au cœur de Noirmoutier à l'Encre Bleue.
D'accord, c'est noté. En tout cas, moi, envie de lire.
Mais je vous le
prêtez. Mais vraiment. Merci. Merci, Louis. L'émission podcast, comme d'hab. Et puis demain, Emmanuel, alors on change carrément de style, musique avec Sgt Pepper, donc apparemment les Beatles. Hein.
Les Beatles au programme, on les a déjà reçus évidemment, ils seront demain soir au Perrier. Et donc on aura demain à 12h35 les Sgt Pepper sur Nov FM.
Très bien, demain 12h35, merci Louis, à très vite, ça sera toujours un plaisir. Il est 13h les infos, avant d'écouter Dasha, Stéphane et Janet Jackson, et puis à tout à l'heure sortir les bons plans dès 16h sur Nov.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les